Psychologie, tous les jeudis soirs, de 20h30 à 21h30. Sur Fréquence Paris Pluriel. 106.3.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3. Il est 20h30, on est jeudi, même le premier jeudi du mois de mai. Et vous retrouvez donc les radioactifs et les radioactives, une des super équipes de Zoom Écologie. Alors aujourd'hui c'était la fête, on espère qu'elle était bonne. Mais voilà, ce soir on s'y remet et on va pas chômer, parce que les merguez, frites, décongelées, eh bien ça suffit. On vous propose donc une émission consacrée à l'agroécologie et pas n'importe laquelle, puisque nous écouterons des extraits de la conférence pour une agroécologie paysanne qui s'est tenue au Palais Bourbon, jeudi 3 avril, à l'invitation de Brigitte Alain, députée de Dordogne. On y était et on remercie les organisateurs et les organisatrices qui nous autorisent ce soir à vous en délivrer des morceaux choisis. Cette conférence, c'était la première apparition publique du collectif pour une agroécologie paysanne. Un collectif qui rassemble la Ligne d'Horizon, la Confédération Paysanne, Nature et Progrès, Accueil Paysan, le réseau Éco-Bâtir, le réseau Semences Paysannes, le FADEAR, les Amis de la Terre, le mouvement interrégional des AMAP, la Ligue de protection des oiseaux, MINGA, le BD, Biodiversité, Échange et Diffusion d'Expériences, l'Association pour la promotion des produits naturels peu préoccupants, Génération Future et enfin Terres et Humanisme. Certaines de ces organisations étaient déjà à l'initiative du colloque international d'agroécologie qui s'est tenu en 2008 à Albi, avant donc que le ministère de l'Agriculture ne récupère ce mot. Car si l'agroécologie est effectivement aujourd'hui à la mode, ça fait longtemps que des paysans et des paysannes la pratiquent, et selon des pratiques culturelles, populaires, en marge des injonctions à industrialiser l'agriculture qui sévissent depuis des décennies. Et si ces diverses organisations se sont rassemblées il y a quelques mois au sein de ce collectif pour une agroécologie paysanne, c'est parce qu'elles estiment, comme l'explique leur communiqué, qu'après l'agriculture biologique, le commerce équitable, l'éco-construction, le projet de société dont est porteur l'agroécologie est lui aussi en train d'être détourné. Le collectif, ainsi, ne croit pas que la fuite en avant technicienne puisse répondre aux problématiques environnementales et politiques et entend dénoncer de fausses solutions. Donc vous l'aurez compris, si on parlera bien d'agriculture ce soir, ce sera au-delà de la simple comptabilité environnementale de choix techniques de production. Il s'agira plutôt de choix de société, de valeurs portées par des mouvements sociaux. Alors en effet, il s'agit pour le collectif d'interroger et de dépasser la mutation écotechnicienne qui se dessine aujourd'hui dans la politique agricole, comme d'ailleurs dans bien d'autres domaines sociaux. Et ce pour reposer la question de nos libertés, des pratiques populaires et de l'autonomie. Alors que se négocie actuellement la nouvelle loi d'avenir agricole, les témoignages que vous entendrez, qui furent donc portés au sein même du Palais Bourbon, ce sont des paroles de personnes engagées et qui cherchent à replacer, comme le dit le collectif, l'humain et la nature au centre des préoccupations sociétales, à sortir de la dictature de l'argent et de la finance.
Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être là, d'avoir répondu à l'invitation du collectif pour une agroécologie paysanne. Donc je me présente rapidement, Gauthier Félix, je suis membre de l'association La Ligne d'Horizon et je suis aussi animateur de développement agricole, c'est la terminologie d'usage. En Lorraine, on essaie de développer un peu des projets d'agroécologie. En mot d'entrée, pour nous accueillir, on est ici grâce à Brigitte Alain, ici présente, donc je vais vous demander de faire quelques mots d'accueil. Et après, je vous présenterai le programme de la conférence.
Eh bien, bonjour à tous. Et puis, merci en tous les cas à vous tous d'avoir organisé cette conférence. Donc, conférence pour une agroécologie paysanne, donc, qui a le mérite de poser des bases intéressantes et dénoncer les conditions de son émergence. Je crois que effectivement, vous avez complètement raison de vous poser les questions concernant l'agroécologie et de se dire que aujourd'hui, au moment où une loi d'orientation agricole est en discussion au Parlement, donc dès la semaine prochaine en première lecture au Sénat, qui a suivi une première lecture à l'Assemblée nationale ce mois de janvier, vous posez les vraies questions de quels sont les défis posés à l'agriculture. Je vais peut-être rappeler quelques mots qui, pour certaines d'entre vous, feront écho. Produire, employer, préserver. Je n'ai pas perdu mes fondamentaux. Donc, dans un cadre d'un défi qui est important, la lutte contre le réchauffement climatique, les agriculteurs ont un rôle important à jouer dans cette lutte contre le changement climatique, d'abord parce qu'ils sont eux-mêmes acteurs de ce changement climatique, du réchauffement climatique, mais aussi, bien sûr, concernés par les conséquences du changement climatique, et ils risqueraient, pour un grand nombre d'entre eux, d'en être les victimes. Donc forcément, je pense qu'ils doivent être motivés par ces questions-là. Donc toute loi d'orientation agricole doit s'emparer de ces enjeux. Les enjeux aussi qui sont posés, c'est des populations qui croissent, donc la nôtre. La capacité à produire une alimentation qui aujourd'hui a atteint des limites. Les limites de l'agrochimie sont là. Les quantités produites baissent pour diverses raisons, l'agrochimie, mais aussi... je ne sais pas si vous l'évoquerez, l'accaparement des terres, l'artificialisation des terres qui devient un vrai problème sur lequel nous devons lutter et lutter ensemble. Les pollutions des sols, les pollutions de l'air, les pollutions de l'eau et effectivement les pollutions aussi par voie de conséquence des productions alimentaires et qui conduisent à une remise en cause de tous ces systèmes. Donc la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt est censée répondre à ces enjeux qui sont à la fois environnementaux, économiques et sociaux. Et donc, l'agroécologie, de fait, ne sera possible qu'à condition de préserver une agriculture paysanne. Et donc, ça veut dire l'accès au foncier pour les nouveaux candidats au métier. Ça veut dire l'accès aux semences, ça veut dire l'accès aux connaissances, les échanges de savoir-faire. C'est à ça que doit répondre cette loi d'avenir et répondre à des besoins sociétaux qui sont portés par les collectivités et pour la collectivité. Nous avons, pour un grand nombre, travaillé ensemble pour l'écriture d'amendements pour la première lecture de la loi d'avenir agricole. Elle est encore en discussion pour quelques mois et donc nous pouvons encore gagner des choses. J'ai permis d'inscrire dans l'article 1 de la loi, donc l'orientation, les contrats alimentaires territoriaux. Je pense que nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons aller plus loin sur le foncier. Nous pouvons aller plus loin aussi sur l'agroécologie et sa définition. Je vous remercie et je vous souhaite de bien travailler.
Voilà, comme l'a rappelé Brigitte Alain, cette conférence est aussi organisée dans le cadre de discussions sur la loi d'avenir agriculture et de la forêt. Il y a une grande place qui est faite pour l'agroécologie et le collectif s'est aussi monté pour défendre une autre définition de l'agroécologie qui ne serait pas simplement un verdissement des techniques agricoles industrielles ou inégalitaires. Et c'est pour ça qu'on a voulu rassembler plusieurs associations, syndicats qui travaillent sur le terrain en fait à cette agroécologie. Et ça fait partie des choses qu'on veut vous présenter. D'abord, on va parler un petit peu de l'agroécologie et des mouvements paysans. Donc, avec l'agroécologie, une notion qui est portée depuis plusieurs années par des mouvements paysans, notamment par la Via Campesina. Donc, Guy va vous en dire quelques mots. Ensuite, on fera un petit focus sur le cadre français et sur les enjeux autour de l'agroécologie, autour de l'agriculture française. Ensuite, on rentrera dans le texte, un petit peu dans l'analyse de la loi d'avenir agricole sur la question des semences et sur la question des alternatives aux pesticides, les productions naturelles peu préoccupantes avec Guy Kessler. Et on vous présentera des projets qui sont portés par des membres sur le terrain, des associations membres du collectif d'agroécologie où sur le terrain on a répondu à l'appel à projet ministériel mobilisation collective pour une agroécologie. Et on aimerait à travers ces exemples montrer comment on dépasse simplement la double performance qui est le mot à la mode, technique, environnementale et économique, et qu'on cherche aussi à faire de la performance sociale, à animer les choses par le bas. Enfin, on conclura avec une perspective sur l'agroécologie et la recherche par Sylvia Pérez-Vitoria. Donc je vais tout de suite donner la parole à Guy pour l'agroécologie, la Via Campesina et l'agroécologie paysanne.
Bonjour à toutes et à tous. La Via Campesina internationale est la principale organisation paysanne au niveau mondial, implantée dans tous les continents, peut-être pas encore tous les pays de la planète. C'est une organisation de petits paysans. J'insiste là-dessus. Depuis la réunion mondiale qu'on a faite à Maputo, donc ça fait maintenant 7 ans, je pense. L'agroécologie est le projet politique de la Via Campesina. Donc pour nous, l'agroécologie, c'est d'abord un projet de société. Ce n'est pas un empilement de techniques agricoles. On parle bien de projet de société. Concrètement, alors c'est vrai que vu depuis nos pays riches, ça surprend, 70% de la nourriture sur la planète est produite par des petits paysans qui vivent dans des économies d'agriculture, disons, locale, d'autres disent vivrières, d'autres peuvent dire familiales. Bon, ce concept, il est un peu plus flou. En grande partie en dehors des marchés. Donc, s'il y a un problème d'alimentation aujourd'hui sur la planète, qui est d'abord un problème de répartition de la nourriture et pas du tout un problème de quantité produite, ce n'est pas du côté de l'exportation de quelques pays riches qu'il faut chercher des solutions. Donc, ce n'est pas du côté de l'exportation des pays riches qu'on va chercher des solutions. C'est peut-être plutôt du côté d'une meilleure organisation du travail des petits paysans. En termes de productivité, la productivité à l'hectare, quand il y a beaucoup de paysans, avec des cultures associées, l'agroforesterie, des rotations de cultures, est bien supérieure, celle de l'agroécologie, à celle des monocultures industrielles qui ont remplacé le travail paysan par le pétrole, c'est-à-dire des engrais chimiques, des pesticides, la mécanisation, pétrole qui pose tous les problèmes que je ne vais pas vous développer. Et donc, pour la Via Campesina, c'est d'abord une question d'organisation sociale des petits paysans sur des territoires qui définit l'agroécologie. Oui, certes, on ne va pas chercher des produits chimiques de synthèse. Certes, il y a des techniques agricoles qui sont importantes. Mais ces techniques agricoles ne sont pas le fruit d'une science, quelle que soit la collaboration qu'on puisse avoir. Et je vois qu'il y a quelques scientifiques qui travaillent avec nous dans la salle. On n'a pas des scientifiques qui travaillent pour des paysans, pour leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent. Non, on a des scientifiques qui travaillent avec des paysans. Parce que l'agroécologie, c'est d'abord les pratiques des petits paysans qui, au niveau local, sont organisés dans des systèmes sociaux extrêmement productifs. Et quelles sont les bases de cette organisation sociale? La première base, c'est la transmission des savoirs de paysans à paysans, qui peuvent être accompagnés par des scientifiques et qui nous aident beaucoup, mais c'est d'abord des paysans qui ont ces savoir-faire. Et là, il y a des pratiques qui sont mises aujourd'hui en place par toutes les organisations de la Via Campesina qui consistent à ce que chaque paysan aille voir ce que font les autres paysans, échangent au bord du champ. Et au bord du champ, là, il y a vraiment des pratiques qui s'échangent. Et ce qu'il y a peut-être de nouveau aujourd'hui, on peut dire, et je fais partie des gens qui peuvent dire beaucoup de mal d'Internet, on a des échanges de pratiques au niveau mondial qui se font aujourd'hui. Alors, Internet n'est pas le vecteur de l'échange de pratiques, non. Il faut qu'on se voit, il faut qu'on discute et qu'on soit devant les plantes et les animaux. Mais Internet nous permet de repérer qui a des pratiques intéressantes et d'aller se rencontrer par la suite. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Il y a de l'innovation qui se fait aujourd'hui par cet échange de pratiques de paysan à paysan au niveau mondial. La deuxième chose au niveau des outils mis en place par la Via Campesina, et je vais m'arrêter là-dessus, ce sont la capitalisation de ces échanges de pratiques qui donnent naissance à des écoles d'agroécologie, où les jeunes et les jeunes d'abord, les enfants des communautés paysannes vont se former. Bon, nous avons des écoles d'agroécologie en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Il n'y a pas encore de formalisation en Europe, où la capitalisation de ces échanges de savoir est transmise aux jeunes générations qui ensuite vont mettre en place ces nouvelles pratiques. Donc, je ne vous ai pas parlé de technique. Je ne vous ai pas parlé de produits chimiques de synthèse, même si on les refuse. Je vous ai parlé de l'essence de l'agroécologie, qui est l'organisation sociale des petits paysans sur des territoires. Et c'est le pari que nous devons faire peut-être aujourd'hui en France. Lorsque je suis né, nous étions peut-être 5 millions, en tout cas, de ruraux. Aujourd'hui, nous avons 5 millions de chômeurs et du pétrole dans les champs qui nous empoisonnent. Peut-être qu'il y aurait une solution à avoir 5 millions de paysans dans les champs en France.
Merci beaucoup, Guy. Je vais passer tout de suite la parole à Josiane Palache pour la Confédération Paysanne, qui nous dise quels sont les enjeux pour l'agriculture française autour de la notion d'agroécologie, autour de la loi d'avenir agricole.
Alors, ce terme d'agroécologie en France, on n'entendait pas spécialement bien parler. C'est à l'occasion de cette fameuse loi d'avenir qu'a pondu Le Foll qu'on s'est mis soudainement à parler vraiment, à parler d'agroécologie. Mais déjà, il faut savoir l'origine de son projet, qui est quand même un rapport de l'INRA, de certaine Marion Guilloux, et qui était commandé effectivement par le ministère pour mettre en avant cette agroécologie, et qui serait bon de rappeler quelques principes qui sont élaborés là, qui peuvent permettre de nous éclairer vraiment de la différence entre ce qu'a évoqué Guy, le côté social de l'agroécologie, et le projet, la volonté du rapport Guilloux de ce que doit être l'agroécologie, où il y a certainement des points positifs qui sont dedans, mais la dimension sociale qui est complètement absente. Alors, le titre qui était, c'était vers une agriculture doublement performante pour concilier compétitivité et respect de l'environnement. C'est quand même assez clair d'entrée, c'est compétitivité et respect de l'environnement. On est déjà complètement en opposition au principe qu'a évoqué Guy, donc un peu le fondement un peu de notre organisation, à ce que des organisations qui pensent, qui pratiquent l'agroécologie de près de longtemps, où effectivement le sang a un peu tourné quand on a entendu ces termes-là. Alors, quatre lignes directrices là-dedans. Sortir du dilemme encourageant la production et contrainte environnementale. Alors, qui dit production dit évidemment exportation, c'est sous-entendu, hein, pour moi. Deuxième point, capitaliser les démarches des pionniers en France et à l'international et tirer les enseignements sur les méthodes collectives d'innovation des groupes d'agriculteurs. On ne sait pas très bien où ils ont été les chercher. Je crois qu'il y en a qui pratiquaient l'agroécologie depuis très longtemps et on n'a pas l'impression que dans ce rapport ça a été très très valorisé. Inciter plutôt que contraindre, alors ça peut-être ça pourrait être effectivement positif, dans le sens où bon, Guy nous a invoqué une solution radicale, à dire bon, on met les chômeurs dans les champs, c'est peut-être dur, mais la question, parce que là-dedans c'est de pas d'accuser la problématique du développement agricole qu'on a connu 50 dernières années, c'est que effectivement on était sur un modèle productiviste et que c'est on a poussé les paysans là-dedans, mais c'est pas les, enfin quelque part c'est pas les paysans ou les agriculteurs, enfin, je dis plutôt les paysans, enfin tous les agriculteurs qui ont été poussés dans cette ligne-là, ce n'est pas de leur initiative. Ils ont je crois que dans cette affaire-là, ce n'est pas eux qu'il faut mettre en avant, c'est effectivement les choix politiques qui ont été faits. Une quatrième ligne directrice, c'est permettre une diversité des systèmes adaptés aux conditions locales, au milieu et organiser les acteurs, remettre au centre des groupes d'agriculteurs leurs projets, leurs démarches agronomiques. Alors là, c'est peut-être certainement des bons principes dans ce qui est ce principe de l'agroécologie et les groupements d'intérêts économiques écologiques. Il y a certainement quelque chose qui peut être positif dans la démarche collective au niveau des territoires d'aller vers des pratiques meilleures pour l'environnement. Faut voir que c'est le travail commence à se faire là-dessus. Il y a certainement des opportunités qu'il y a là-dedans, suivant les moyens qui pourront être donnés pour avoir de l'efficacité dans ces domaines-là. Pour ce qui est de la loi d'avenir, les contraintes les incompréhensions qu'il y a par rapport au projet d'agroécologie suivant notre vision et la sienne, commence le premier, c'est la question du foncier, l'accès au foncier, où de ce côté-là, déjà en premier, c'est au niveau des contrôles des structures, d'éviter que les structures puissent s'accaparer les terres et au détriment des possibilités d'installation. Savoir qu'il y a quand même un certain nombre de candidats à l'installation qui ne peuvent pas avoir accès au foncier qui est monopolisé globalement par les très grosses structures. Ça, c'est un des points majeurs de la loi d'avenir qui ne prend pas en compte les principes de l'agroécologie. L'autre, un autre point non négligeable, c'est sur la question des pesticides qui ne sont pas fondamentalement remis en cause. On dit, on donne presque des permis de polluer, on peut continuer à polluer, ça ne pose pas spécialement de problème. Dans son projet de loi d'avenir, là, ça, c'est quand même quelque chose qui est assez incompréhensible, qu'on ne puisse pas, dans un projet d'agroécologie, qu'on ne puisse pas remettre en cause très sérieusement ces pratiques d'utilisation de pesticides massifs, alors qu'on est dans un plan éco-phyto qui, normalement, d'ici 2018, il devait être de réduction de 50% des pesticides, qu'on est très, très, très loin, que pour le moment, on n'a rien avancé. Peut-être une chance pour nous de ce côté-là, c'est que le milieu médical commence à s'intéresser à ce sujet-là, qu'il y a eu une conférence à l'intérieur ici de l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps sur le fait que cette notion de qualité de l'environnement influait sur certaines maladies. Et que le jour où effectivement le milieu médical aura pris vraiment, ou qu'il y aura des scandales, ils seront certainement plus forts encore que le sang contaminé. Effectivement, cette question-là sera remise en plus en cause. Il me demande de terminer un petit peu. J'aurais pu parler un petit peu. Ce qui nous concerne quand même, c'est la politique agricole, la PAC, aussi sur les pratiques agroécologiques. Il n'encourage vraiment pas les pratiques agroécologiques, dont une des premières, c'est la mise en place des rotations des cultures, parce qu'un des principes de l'agroécologie, quand même, c'est la rotation des cultures. Et là, on est complètement... Il n'y a aucune mesure là-dedans. La valorisation des petites fermes, qui aussi ne sont pas aidés directement, qui méritent quand même un grand sujet, un gros appui, et ensuite la prise en compte de la diversité des fermes, notamment par le fait qu'ils mettent des seuils, notamment pour les bovins, des seuils à 18 GB pour pouvoir avoir droit aux primes, et qui ne tiennent pas compte de la diversité qu'il peut y avoir sur les fermes aussi, qui sont une des bases de l'agroécologie, et comme quoi le projet qu'on a là, il faut que ce soit au niveau de la PAC un petit peu, et qu'on pourra peut-être développer un peu plus, et de la loi d'avenir, il y a, par rapport à notre projet d'agroécologie, il y a vraiment une grosse différence.
Merci Josian. Les UGB, c'est les gros bovins. L'unité gros bovins, c'est comme ça qu'on compte les vaches au ministère et à l'INRA. Alors, d'après ce que j'ai compris, 10 UGB, c'est-à-dire que les fermes qui ont moins de 10 unités gros bovins sont exclues des aides à l'élevage.
Des aides couplées aux vaches allaitantes. C'est surtout que si sur une ferme où il y a des vaches, des moutons ou éventuellement d'autres animaux, ils sont exclus. C'est là les fermes qui sont diversifiées, qui sont la base de l'agroécologie, qui sont exclues.
On va passer à l'avant-dernière partie qui est le cadre légal en France. On va revenir un petit peu sur l'actualité. Donc, comme on le rappelle, cette conférence elle a aussi lieu pour peser dans le débat sur la loi d'avenir agricole. Et on aimerait revenir sur la loi d'avenir agricole, décortiquer les choses, notamment au niveau des semences, pour montrer justement qu'il ne s'agisse pas simplement d'inviter les agriculteurs à se réunir pour avoir des techniques plus vertueuses sur le point de vue environnemental, si on veut vraiment développer une agroécologie qui soit synonyme d'autonomie pour les paysans, pour les territoires, et qui soit synonyme de tout ça. Donc Guy, pour 10 minutes.
Je ne parlerai pas que des semences, je parlerai de l'ensemble des outils qui sont utilisés au niveau des pratiques de l'agroécologie paysanne. Peut-être pas de l'agroécologie du ministre. Moi, je ne vous parlerai pas de drones pour surveiller si mon champ, il y a assez d'engrais ou il n'y en a pas assez. Non, il vaut mieux mettre un paysan qui fasse le tour des champs. Il sentira beaucoup mieux ce qui se passe dans ses champs que d'acheter un drone à une société, surtout quand on sait que les drones servent aussi à tuer des gens. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, on a un gros problème. C'est que toutes les pratiques paysannes, de l'agroécologie paysanne, sont criminalisées par les lois. Et je donnerai un certain nombre d'exemples, en commençant peut-être par les préparations que nous utilisons. Si nous ne voulons pas utiliser de produits chimiques de synthèse, on peut avoir... Bon, d'abord, on va chercher à avoir un écosystème équilibré, mais on peut avoir de temps en temps des déséquilibres dans nos écosystèmes. Et on peut avoir ce qu'on appelle des pathogènes, qui sont peut-être plutôt des... organismes compagnons de nos plantes ou de nos animaux, il va falloir aider nos plantes et nos animaux ou nos sols se défendre, à interagir. Et pour ça, qu'est-ce qu'on utilise ? Eh bien, des préparations à base de plantes, à base de produits minéraux, certaines brutes, des purins d'ortie, des plantes médicinales, d'autres transformées, des huiles essentielles, des préparations biodynamiques ou des médicaments homéopathiques pour soigner nos animaux. Ben, imaginez-vous qu'il y a 2 mois de ça, une éleveuse de chèvres du département de la Drôme s'est vue retirer ses aides de la politique agricole parce qu'elle utilisait des plantes médicinales pour soigner ses chèvres. On n'a pas le droit d'utiliser des plantes médicinales pour soigner des chèvres si on n'a pas une ordonnance du vétérinaire, parce que les plantes médicinales n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Un autre agriculteur du département du Tarn s'est vu refuser ses aides de la politique agricole parce qu'il avait utilisé des granules homéopathiques qui sont vendues pour nous soigner, nous, dans les pharmacies, pour soigner ses brebis. Vous avez tous entendu parler du purin d'ortie. Sachez qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'utiliser du vinaigre pour soigner les salades. On soigne les plantes avec du vinaigre, hein, c'est une petite vertu insecticide, et on s'en sert aussi pour d'autres choses. Mais non, vous mettez du vinaigre dans votre salade, mais nous, on n'a pas le droit d'utiliser du vinaigre pour soigner nos salades. Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché comme produit phytopharmaceutique, ils appellent ça. Moi, j'appelle ça un pesticide. On n'a pas le droit d'utiliser du sucre, de l'eau avec du sucre pour mettre sur des pommiers. C'est interdit parce qu'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Alors, c'est quoi ces histoires d'autorisation de mise sur le marché ? Des normes, des produits qui sont stabilisés. Bon, un purin de plante, ce n'est pas stabilisé, suivant quand c'est que vous l'avez ramassé, ça fermente, ça bouge. Allez me stabiliser un granule homéopathique, on vous dit qu'il n'y a rien dedans, mais ça, c'est emmerdant, ça marche, même s'il n'y a rien dedans. Qui ont une action reproductible, ça n'a pas une action reproductible, ça a une action différente suivant chaque écosystème. Donc, au niveau technique, on ne peut pas avoir l'autorisation de mise sur le marché. Et en plus, ce sont des dossiers qui ont une telle coûte que, parfois, si vous ne déposez pas un brevet dessus, vous ne pouvez pas amortir le coût du dossier. Et comme par hasard, les études scientifiques qu'on vous demande pour déposer un brevet sont les mêmes que celles qu'on vous demande pour l'autorisation de mise sur le marché. Et donc aujourd'hui, on vous autorise des pesticides qui sont extrêmement dangereux, mais il y a des études scientifiques qui vous montrent qu'ils ne sont pas dangereux. Je crois que Richard en a assez parlé pour les abeilles, et on vous interdit le purin d'ortie ou le vinaigre. Et nous avons besoin de ça pour travailler. Si on va sur les semences, si on ne veut pas utiliser de produits chimiques pour homogénéiser les conditions de culture, les terroirs, etc., bien, il faut adapter nos plantes au terroir et à nos pratiques agricoles. Pour ça, il faut commencer par ressemer une partie de la récolte pour que génération après génération, nos plantes s'adaptent. Et là, on a des lois sur le brevet, par exemple, ou sur le certificat d'obtention végétale, qui nous interdisent, ou alors qui vont nous demander de payer de l'argent. Et ces lois sur le brevet deviennent extrêmement perverses aujourd'hui, puisque aujourd'hui, vous allez déposer un brevet sur un caractère génétique d'une plante, mais qui va passer d'un champ à l'autre. Et donc, même mes propres semences vont être contaminés, pas par des OGM, par les brevets des champs voisins. Aujourd'hui, on cultive des variétés végétales où il y a des brevets qui ne sont pas OGM. Et ça va rentrer dans mon champ. Et même, on fait mieux, on dépose des brevets sur des caractères qui existent déjà dans mes plantes. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, entendu parler du chou brocoli, de la tomate ridée, de la laitue résistante aux pucerons. Ce sont des caractères qui existent déjà, mais aujourd'hui, toutes les laitues résistantes aux pucerons appartiennent à une société hollandaise qui s'appelle Rijksvet, qui a eu brevet sur la résistance des laitues aux pucerons. Et ça va plus loin. Nous utilisons beaucoup de micro-organismes. Quand vous faites du vin, vous utilisez des levures. Quand vous faites du fromage, vous utilisez des levains, quand vous faites ou des ferments lactiques, quand vous faites du pain, vous utilisez des levains. On dépose des brevets sur les petits microbes qui sont là-dedans. Et à partir de là, du jour au lendemain, votre pain ne vous appartient plus. Ça devient une contrefaçon. Donc ça, si vous voulez, on a un système légal qui interdit, criminalise toutes les pratiques paysannes. Et je ne vous parle pas des échanges de semences où on nous a dit c'est interdit, vous n'avez pas le droit, etc. Alors, juste deux mots, je ne vais pas développer tout par rapport à la question que vous avez posée. La pratique du réseau semences paysannes, c'est de dire si on n'a pas le droit et que c'est légitime, on prend le gauche. Et c'est extrêmement intéressant la démarche qu'on a eue. On n'a pas le droit de vendre des légumes de variétés non inscrites, on nous a dit, au catalogue. On les a vendus et on a découvert qu'on avait le droit. C'est ça qui est assez intéressant. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Donc attention à la propagande, hein, dont appelle ça la publicité, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On nous a dit, vous n'avez pas le droit d'échanger des semences entre vous. Mais comment ils font les industriels pour, avant d'inscrire une variété au catalogue, les semences ne sont pas inscrites, celles qu'ils échangent entre eux. Ils font de la recherche, ils font de la sélection. Est-ce qu'un paysan n'a pas le droit de faire de la recherche, n'a pas le droit de faire de la sélection? Et nous, on a dit, on fait de la sélection, on échange nos semences. Et puis là, quand il y avait un paysan tout seul, il avait un procès. Mais quand on a commencé à être quelques centaines, puis quelques milliers. Et aujourd'hui, ça, il faut, c'est dommage que Brigitte Allain soit partie, parce qu'elle s'est beaucoup battue sur ça dans la première lecture à l'Assemblée nationale de la loi d'avenir agricole. Nous avons, mais parce que nous l'avons d'abord inscrit dans la réalité, maintenant nous l'avons dans la loi, un article de loi qui dit que les paysans peuvent échanger leurs semences dans le cadre de l'entraide. De la même manière, vous avez pu apprendre quand on a occupé le GNIS, on a eu une loi qui a dit que les semences de ferme ne sont pas des contrefaçons, ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas saisir nos récoltes, hein, ce qui s'est passé en Colombie, des contrefaçons, 90 tonnes de riz à la décharge parce que une entreprise industrielle a demandé qu'elle soit saisie, c'était des contrefaçons. Nos semences, peut-être, ça restera illégal qu'on ne paye pas les royalties, mais au moins, ils ne pourront pas les foutre à la décharge. Et peut-être ils auront la peine à récupérer les royalties s'ils n'ont pas cette menace-là. On n'a pas tout gagné. La deuxième lecture de la loi d'avenir agricole doit nous permettre de gagner ça. Par contre, et là, je veux le souligner, quand on commence à parler de micro-organismes, de préparation naturelle et des brevets qu'il y a là-dessus, il y a la pharmacie derrière. Et le lobby pharmaceutique, peut-être, est encore plus puissant, malheureusement, que le lobby des pesticides, hein, et que le lobby des semences. Et là, on nous dit, non, vous allez pouvoir faire des produits de biocontrôle. Alors, soyons clairs, c'est quoi un produit de biocontrôle? Vous avez un arbre qui s'appelle le neem, qui pousse en Inde, qui pousse un petit peu sur la Côte d'Azur, mais beaucoup en Afrique, et qui, bon, on fait de l'huile de neem, c'est vermifuge, les enfants l'avalent, hein, c'est un vermifuge dans ces pays-là, et il nous sert aussi à lutter contre certains insectes sur les plantes. Ce produit n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, parce qu'on ne peut pas déposer un brevet, il est issu des savoirs populaires. On ne va pas déposer un brevet, sur nous on défend quand même les biens communs, ceux qui sont issus des savoirs populaires. Donc on n'a pas d'autorisation de mise sur le marché. Il est vendu, mais de manière illégale. Par contre, la substance active de l'huile de neem, qui s'appelle l'azadaractine, elle a un brevet. Et donc, vous pouvez acheter les produits à base d'azadaractine qui sont qualifiés d'utilisables en agriculture biologique, alors qu'il est beaucoup plus simple de prendre des feuilles de neem, de les écraser. Oui, mais ça, c'est l'autonomie des paysans, prendre des feuilles de neem et les écraser. Alors qu'acheter un produit breveté, c'est mettre les paysans sous dépendance de l'industrie. Donc là, on a un exemple très concret des deux agroécologies qui sont en train de s'affronter aujourd'hui en France. Celle des produits biocontrôle, c'est peut-être plus bio, mais enfin bon, il y a aussi des molécules de synthèse, hein, dans les produits biocontrôle. Et celle qui est d'abord sur des pratiques qui garantissent l'autonomie du paysan dans son écosystème et dans son système social local. Un agriculteur qui commercialise sa récolte, pas le jardinier, hein, pas l'éleveur qui a quelques chèvres pour sa propre consommation. Un agriculteur qui commercialise sa récolte n'a le droit d'utiliser de produits phytopharmaceutiques, donc de pesticides ou de produits alternatifs, genre purin d'ortie, et n'a le droit d'utiliser de produits vétérinaires que s'ils ont une autorisation de mise sur le marché. Et en cas d'absence sur le marché de produits indispensables pour soigner des animaux, ça existe pour les animaux, ça n'existe pas pour les plantes, il peut demander à son vétérinaire de lui prescrire une préparation magistrale, on appelle ça. Mais attends, si chaque fois que je vais soigner mes animaux avec des trucs aussi simples que des plantes médicinales, est-ce qu'il faudra que je demande à mon vétérinaire d'accorder à chacune de mes brebis, moi j'ai des brebis, j'ai eu des vaches, un permis de brouter. Mais c'est ça qu'on nous demande. Parce que non, moi, mes animaux, ils broutent des plantes médicinales tous les jours. En plus, dans les garrigues héraultaises, je vous garantis que des plantes médicinales, il y en a un paquet. C'est complètement interdit ce qu'elles font. Alors là, on ne me dit rien parce qu'elles le font tout seules. Mais attendez, mais vers où on va? C'est extrêmement dangereux, toutes ces plantes-là qui sont par terre. Acheter des aliments qui viennent de soja d'Argentine, OGM, c'est beaucoup moins dangereux, c'est évident.
Oui, c'est juste un petit ajout. Peut-être qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un ordre des vétérinaires aussi, qu'il y a un lobby des vétérinaires, et que ça, c'est très, très pesant aussi pour les élevages dans l'agroécologie, quoi.
Aujourd'hui, la politique sanitaire, que ce soit pour les plantes ou pour les animaux, est décidée dans des comités régionaux, dans lesquels on a l'ordre du vétérinaire, l'Union des industries des pesticides, qui s'appelle de protection des plantes, hein, mais bon, appelez-le par leur vrai nom, l'industrie semencière, des coopératives agricoles qui vendent des semences, des produits vétérinaires et des produits phytopharmaceutiques, des dirigeants de syndicats qui dirigent des coopératives agricoles qui vendent des semences industrielles, des produits phytopharmaceutiques et des produits vétérinaires, et puis deux ou trois oiseaux perdus de la Confédération paysanne ou d'autres syndicats alternatifs. Elle est décidée à ce niveau-là. Donc qui décide de la politique sanitaire? Est-ce que c'est une politique publique ou est-ce que c'est la privatisation d'une politique publique?
C'était donc Guy Castler, paysan dans l'Hérault et chargé de mission pour le réseau Semences Paysannes. Et tout de suite, on vous propose d'écouter Gérard Pierron qui interprète en musique un poème de Gaston Couté intitulé « La paysanne ».
L'histoire chante en nos cœurs et nos cerveaux l'exquise douceur de la Loire et la bonté des vins nouveaux. Allons-nous esclaves placides dans un sillon où le sang lui resterait piétiné au bruit des Marseillaises fratricides. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons en des sillons plus larges et plus beaux. À la clarté des soirs sans voile, regardons en face les cieux, cimetières fleuris d'étoiles où nous enterrerons les dieux. Car il faudra qu'on les enterre, ces dieux féroces et maudits qui, sous espoir de paradis, firent de l'enfer sur la terre. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons. Ne déversons plus l'anathème en gestes grotesques et fous sur tous ceux qui disent je t'aime dans un autre patois que nous. Et méprisons la gloire immonde des héros couverts de laurier, ces assassins, ces flibustiers qui terrorisèrent le monde. En route, de morales hypocrites dont les barrières chaque jour dans le sentier des marguerites arrêtent les pas de l'amour. Et que la fille mère quitte ce maintien de honte et de deuil pour étaler avec orgueil son ventre où l'avenir palpite. En route, allons les gars, jetons semons nos blés, soignons nos souches, que l'or nourricier du soleil emplisse pour toutes nos bouches les piblons, le raisin vermeil. Et seule guerre nécessaire, faisons la guerre au capital, puisque son or, soleil du mal, ne fait germer que la misère. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons, en essuyant plus larges et plus beaux.
Zoom écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
C'était donc La Paysanne, un poème de Gaston Coutet, interprété par Gérard Pierron. Et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, avec Zoom Écologie et son équipe des radioactifs et des radioactives. On poursuit cette émission consacrée à l'agroécologie paysanne, et on retrouve les membres du collectif du même nom à la conférence qui s'est tenue au Palais Bourbon le 3 avril dernier.
Avec Johan qui nous a rejoint de l'association BD, on va vous présenter les quelques exemples de projets d'agroécologie paysanne qui ont été portés par des associations du réseau et qui ont été sélectionnés par le ministère sur la double performance écologique et économique, sur lequel nous on rajoute bien entendu le volet social. Voilà.
Ouais, bonjour. Donc, je suis salarié en fait dans une organisation qui s'appelle BD, ça veut dire biodiversité, échange et diffusion d'expériences. Donc, comme son nom l'indique, c'est très axé sur les questions de biodiversité et donc surtout biodiversité cultivée. On est membre du réseau Semences Paysannes, notamment. Bon, on travaille pour une bonne partie en Afrique, Afrique de l'Ouest notamment, et Maghreb, et puis un peu en France aussi. Alors après, je vais vous parler de la France, mais du coup, je voulais quand même répondre à la question de monsieur sur le continent africain. Bon, il faut savoir qu'en Afrique, il y a aussi pas mal d'organisations paysannes, dont un certain nombre sont membres de la Via Campesina, et que ce projet d'agroécologie paysanne, il commence aussi à être pris en main là-bas par des organisations. Notamment, on a des partenaires au Mali, la CNOP. Alors, je ne saurais plus dire exactement ce que ça veut dire ce sigle, mais en tout cas, ils ont un projet de faire un colloque sur l'agroécologie paysanne cette année en novembre, je crois. Donc voilà, c'est des mouvements qui sont en cours et avec lesquels on est en lien. L'idée d'intervenir en tant qu'ONG là-bas, on essaye de l'avoir un peu différemment, d'être plus sur un appui à des organisations locales par rapport aux questions qu'ils ont, aux besoins qu'ils ont en termes d'organisation pour soutenir leurs forces, notamment pour débattre sur ces questions, parce qu'en Afrique aussi, il y a des projets industriels de faire une agroécologie très industrielle, quoi. Voilà. Par rapport au CASDAR, donc CASDAR c'est un fonds de soutien au développement agricole qui est géré par le ministère de l'Agriculture, qui a lancé l'an dernier un appel à projet qui s'appelait Mobilisation collective pour l'agroécologie. Alors l'appel à projet visait avant tout des petites organisations, plutôt des organisations gérées par des agriculteurs directement. Dans une approche d'agroécologie, on va dire, c'est l'approche agronomie systémique pour ceux qui sont un peu du domaine de l'agronomie, qui se base sur l'utilisation de techniques innovantes dans une approche qui prend l'ensemble du système de culture en compte. Bon, ce qui est déjà mieux que simplement apporter des petites techniques dans une agriculture qui ne change rien du tout du reste. Et puis dans ce titre, il y a aussi le côté collectif, mobilisation collective, et je pense que ça a fait un peu, ça a parlé à un certain nombre d'organisations paysannes, en se disant peut-être qu'à travers cette approche collective, il y aura une ouverture qui permettra de réussir à présenter des projets qui soient subventionnés dans le cadre de cet appel à projet. Et en effet, il y a un certain nombre d'organisations dont certaines sont présentes dans le collectif Agroécologie Paysanne ou certaines sont liées à des organisations du collectif qui ont réussi à décrocher des projets. Mais dans l'idée toujours de ne pas s'arrêter à ce que le projet demandait, de ne pas s'arrêter à simplement une approche agroécologie technique, mais vraiment de rentrer, de dire bon bah voilà, on est content que le ministère finalement ait lancé cet appel à projet, c'est déjà un pas qui va à peu près dans le bon sens, mais nous on a envie de développer à travers cet appel à projet des projets qui prennent en compte l'aspect social. Donc je vais vous présenter vite fait quelques petits projets qui sont passés là-dedans. Avec l'association BD, on travaille notamment en lien avec une association de paysans dans le Minervois, donc à la frontière de l'Aude et de l'Hérault, qui s'appelle Chemin Cueillant, et qu'on a accompagné depuis quelques années dans des dynamiques justement d'agroécologie et avec d'un point de vue technique en essayant de répondre à des problématiques notamment liées à la viticulture, pour répondre à la question de tout à l'heure, notamment liées à la gestion de la fertilité des sols en viticulture, parce que chez nous on a des sols qui ont été extrêmement appauvris au bout de plusieurs siècles et surtout les 50 dernières années de viticulture intensive. Et on travaille aussi sur tout ce qui est diversification, c'est-à-dire passer à autre chose que la viticulture pour ceux qui peuvent s'en donner les moyens et qui ont envie de diversifier le territoire et du coup aussi de diversifier l'alimentation que les citoyens peuvent trouver directement sur le territoire. Et notamment à travers l'arboriculture, parce qu'il y a pas mal de possibilités à ce niveau-là dans notre région. Et du coup, ça c'est l'aspect technique, mais en fait, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est aussi essayer de répondre à une problématique de précarité des paysans. Chez nous, la viticulture a fait des dégâts pas seulement au niveau des sols, on est vraiment face à des paysans qui ont des moyens d'investissement quasiment nuls. Et en fait, à travers un poste d'animation qu'on arrive à financer via ce projet CASDAR, on va faciliter un peu les organisations collectives de ces paysans pour répondre à leurs questions techniques, mais aussi dans une approche d'essayer d'apprendre à recréer une agriculture paysanne quelque part où il n'y a que de la vigne. Et à répondre aux problèmes de précarité, notamment en plantant des fruitiers, pas seulement pour vendre des fruits, mais aussi tout simplement pour augmenter l'autonomie de chacun et repartir sur une agriculture où on produit des choses à vendre, mais on produit aussi des choses qu'on utilise pour nous, pour avoir une alimentation saine et diversifiée. Ça c'était pour le projet dans le Minervois. Ensuite, il y a quelques projets qui ont été menés aussi par des associations proches. Je pense notamment à l'association Pétaniel, qui est basé dans le Tarn du coup et qui est aussi membre du réseau Semences Paysannes et qui a obtenu un projet sur un travail de lié à la sélection participative, mais pas seulement sélection participative en demandant à des chercheurs continuellement d'aider les paysans dans la sélection, mais aussi dans un projet de réappropriation par les paysans des techniques de sélection pour s'autonomiser là-dessus, parce que finalement la sélection c'est ce que les paysans ont toujours fait chez eux dans leur champ et pourtant à l'époque il n'y avait pas encore de chercheurs, et donc c'est quelque chose qui peut se faire, et maintenant les chercheurs ont apporté une approche qui permet d'aller un peu plus loin, qui permet peut-être de valider un peu certaines approches qu'avaient les paysans, et donc c'est cette approche collective entre la recherche et les paysans, c'est aussi quelque chose qui va être évoqué ensuite par Sylvia, mais qui fait partie de l'agroécologie paysanne. Je vais parler vite fait du coup d'un autre projet en Lorraine qui est mené par l'ADAR, c'est-à-dire l'Association d'Alsace et de Lorraine pour le développement de l'emploi agricole et rural. Donc c'est une ADAR en fait de Lorraine qui travaille pareil sur un projet avec des maraîchers pour développer des techniques qui apportent de l'autonomie aux maraîchers, mais aussi, là aussi, encore une fois, dans une approche qui vise à développer un système de maraîchage qui permet aux maraîchers de ne pas être dépendants uniquement de leur maraîchage et d'augmenter leur autonomie, d'augmenter le temps qu'ils ont à faire d'autres choses pour vivre, pour vivre comme des paysans réellement. Puis bon, tout à l'heure on parlait des histoires d'aide PAC qui dépendent du nombre de bovins, par exemple. Faut savoir que bon, ben moi je connais beaucoup de maraîchers autour de moi qui s'installent et qui s'installent avec des aides à l'installation. Et l'aide à l'installation, c'est quelque chose aussi qui implique qu'au bout de quelques années, on atteigne le SMIC, qu'on réussisse à dégager un SMIC de son travail. Sauf que quelqu'un qui travaille de l'agriculture, qui produit des légumes, mais qui veut aussi à côté avoir quelques bêtes pour se faire son lait, pour avoir des œufs, avoir aussi quelques arbres pour avoir ses fruitiers, qui cherche une certaine autonomie, il va peut-être passer moins de temps sur son maraîchage, il va développer son autonomie, et au final, il aura pas forcément le SMIC, mais il en aura pas forcément besoin. Et donc, on voit là aussi un cas dans lequel les réglementations telles qu'elles sont faites et puis les aides publiques, finalement, ne vont pas du tout dans le sens de l'agroécologie paysanne. Et donc, voilà l'intérêt aussi de prouver qu'une autre approche réellement paysanne a un sens réellement et qu'elle est fonctionnelle et puis qu'on peut en vivre.
C'est une question en retard sur la loi d'avenir agricole. Est-ce que tu pourrais expliciter le lien entre temporel et puis de cause à effet entre le changement de la PAC et puis la loi d'avenir agricole en France?
Oui, bonsoir. Moi, je suis journaliste pour la revue Transrural Initiative et je n'ai pas de questions. Mais je voulais rebondir sur la dernière intervention et dire que je trouvais ça très intéressant. Merci d'avoir présenté ça. Et que, alors même si décrocher un projet dans le cadre d'un appel à projet sur des fonds CASDAR du ministère, c'est peut-être pas forcément la convergence des luttes, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus important que, en fait, cet appel à projet, moi, je le vois, pour avoir suivi l'élaboration de la loi, je le vois un petit peu comme un test pour le ministère d'essayer de voir à quoi pourront ressembler les GI2E, donc qui est quand même un peu une mesure phare de la loi demain. Et que quand on regarde les lauréats de cet appel à projet, aujourd'hui, il y a beaucoup de chambres, de coopératives, dont certaines font des choses très bien, mais que je pense qu'il y a quand même un gros enjeu pour les acteurs qui sont présents là aujourd'hui, aussi à se faire un petit peu plus connaître et à se faire reconnaître en tant que potentiel GI2E demain, même si tout ne se fera pas dans le cadre de cette loi et qu'il y aura beaucoup d'énergie à mettre ailleurs aussi.
Alors, je peux compléter un petit peu. Donc, on est lauréat, le projet lorrain, on le porte avec quelques paysans, je le porte avec quelques paysans. On a été hier avec un maraîcher donc à la conférence du ministère de l'Agriculture sur Produisons Autrement, des pionniers au GI2E qui devait lancer ça. Alors, ce que nous avait dans la conclusion, Stéphane Le Foll, récemment reconduit dans ses fonctions, le midi même, est venu l'après-midi nous dire que l'aspect social était absent de la loi et n'était pas présent dans les GI2E à son élaboration et que, à travers les groupes de travail, la pression de certains députés, l'aspect social est rentré dans l'agroécologie. Alors, il ne faut pas confondre ce que veut dire l'aspect social du côté du ministère et de ce que nous, on entend par aspect social. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils avaient en fait mis un peu dans la loi, c'est-à-dire financer de l'animation de collectifs à la base. Et c'est bien là-dessus qu'on a surfé, Johan, moi et d'autres, pour animer des collectifs de paysans. Et donc quand ils disent aspect social, c'est-à-dire il faut animer des collectifs de paysans à la base. Il faut que, plutôt que trouver des solutions individuelles, il faut trouver des solutions à plusieurs, et notamment pour répondre à des problématiques paysagères de dégradation de paysage et de pollution. C'est-à-dire que si vous faites de l'agriculture biologique entourée de gens qui balancent des pesticides un petit peu partout, vous avez beaucoup de mal à vivre. Et que, donc si vous voulez replanter des haies, vous impactez le voisin. Donc pour sortir de ces impasses-là, il y avait une volonté, c'est ce qu'on appelle social, ce que j'ai compris de ce que le ministère appelait social, de bosser à plusieurs avec vos voisins pour pouvoir intervenir à une échelle paysagère. Qui est différent de ce qu'on porte ici, qui est plutôt un côté de mouvement social, côté lutte, côté on s'organise, et c'est ce qu'on a mis dans nos projets GI2E, on s'organise pour l'autonomie des gens. C'est-à-dire que on a les projets qu'on porte, et on s'est réunis à plusieurs du réseau, plusieurs ADAR, donc du réseau FADAR, qui est membre de ce collectif, à midi pour discuter de nos différents projets, avec aussi des gens du réseau Semences Paysannes. Et ce qui différencie, et peut-être pourquoi on n'a pas été sélectionné aussi pour parler à la tribune hier et qu'on était simplement dans le public, c'est qu'on n'avait pas. On vend une démarche un petit peu comme l'agroécologie paysanne et on ne vend pas un résultat pressenti. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, même si c'est très bien, de seulement rallonger des rotations. Il ne s'agit pas simplement de retransformer des pommes bio qui sont, dont on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Il s'agit d'autonomiser des groupes de paysans qui se posent leurs propres questions et qui ne cherchent pas à répondre aux questions qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est des démarches hyper transversales. Et donc on rentre dans aucun critère, on a pu surfer là-dessus, c'est pour ça qu'on a voulu le souligner. Mais on re-questionne la technique, on re-questionne le travail, on re-questionne le rapport à la nature. On est dans la non-prescription et on n'a pas de modèle à défendre. Et on n'a pas la prétention de dire « il faut faire ». Mais on apprend à se reposer des questions. Et c'est vraiment ça qui nous identifie en tant que dynamique collective sur le terrain.
Si je peux rajouter juste une petite chose. Un des éléments vraiment sur lesquels on se base dans ce genre de projet, c'est les échanges entre paysans. Ça a été cité tout à l'heure et c'est vraiment par cette animation des groupes sociaux locaux qu'on arrive à travers des échanges à faire que chacun fait évoluer ses pratiques. Alors que c'est vrai que l'agroécologie telle qu'elle a été présentée par le ministère, elle a plus pour but de transférer finalement des savoirs qui viennent de la science aux paysans. Quand on transfère des savoirs aux paysans, souvent il y a des dégâts entre les deux et c'est jamais ce qui permet aux paysans réellement de développer son autonomie, quoi.
Et pour terminer cette émission, on écoute Sylvia Pérez-Vitoria, économiste et sociologue, membre de la Ligne d'Horizon, une association attachée à faire connaître la pensée de François Partant et à mener aujourd'hui une critique radicale du développement ainsi qu'une réflexion sur l'après-développement. Sylvia Pérez-Vitoria travaille donc dans une approche d'agroécologie en lien avec des mouvements paysans comme la Via Campesina qui ont fait de l'agroécologie paysanne leur mot d'ordre et leur horizon d'action.
Je ne sais pas si la femme est l'avenir de l'homme, mais en tout cas, moi, la femme, on m'a demandé de parler des perspectives, donc je vais vous parler de l'avenir, de la recherche. Alors, moi, je pense que dans cet engouement auquel on assiste actuellement sur l'agroécologie, il y a un enjeu très important pour la recherche. Pourquoi ? Parce que, et en particulier pour la recherche agronomique, parce que ils sont obligés de constater, il y a des rapports et des rapports et des rapports et des rapports qui sortent, qui montrent les dégâts considérables qu'a fait l'agriculture industrielle et donc qu'a fait cette recherche qui a accompagné pendant très longtemps cette agriculture industrielle. Ce qu'a fait une communauté scientifique qui est, depuis très longtemps, acquise à une priorité qui doit être donnée à l'économie de marché, qui doit être donnée au progrès technologique, à l'augmentation des rendements, on est obligé de constater. Ils sont obligés de constater. Et donc, la manière dont l'agroécologie est appréhendée actuellement par les milieux de la recherche, la plupart des milieux de la recherche, qui conseillent, il faut le dire, le ministère de l'Agriculture, c'est une manière de reverdir ce qu'ils font en gardant la main. Et je pense que des notions comme l'agriculture écologiquement intensive, qui a été lancée comme une idée absolument géniale, n'est pas autre chose. Hein. Ou la révolution doublement verte, moi je me rappelle que j'étais à une réunion de la FAO, où cette notion de révolution doublement verte, derrière, il y avait les OGM. Après, on l'a reconverti et c'est devenu agriculture écologiquement intensive. Mais c'est une manière pour les milieux de la recherche de garder la main tout en se donnant une couverture environnementale, écologique, etc., etc. En fait, sans rien changer de fondamental. En fait, la recherche dans la démarche de l'agroécologie paysanne est tout autre. On l'a vu d'ailleurs tout au long de ces interventions, l'agroécologie, elle n'est pas qu'un aspect technique, elle a des dimensions politiques, elle a des dimensions sociales, elle a des dimensions économiques, elle a des dimensions globales. Donc ça, c'est déjà très important, parce que ça veut dire que les disciplines qui vont être mobilisées, ce n'est pas uniquement l'agronomie. Hein. Et historiquement, l'agroécologie, elle s'est constituée avec des apports bien sûr d'agronomes, mais aussi d'écologues, mais aussi d'historiens, mais aussi d'anthropologues, mais aussi de sociologues, mais aussi d'économistes. Donc, si vous voulez, c'est d'emblée l'agroécologie qu'il faut penser comme une démarche, et non pas comme un aboutissement ou comme un modèle, mais comme une démarche. On va vers... Elle est construite dans cette pluridisciplinarité et dans cette multidisciplinarité. Et ça, je veux bien reconnaître que c'est très difficile. C'est très difficile de travailler... Moi, je ne me suis pas présentée, mais entre autres choses, ça fait pas mal d'années que je fais des recherches sur les questions agricoles et questions paysannes. C'est vrai que c'est très difficile d'allier des sciences dures et des sciences sociales, que c'est très difficile de travailler de manière comme ça
disons, conjointe. Mais en tout cas, c'est ça l'agroécologie. On n'a plus parlé d'ailleurs de discipline hybride, c'est-à-dire comment on peut à la fois travailler avec de l'écologie et de l'histoire ou de l'anthropologie, comment on produit en fait des nouvelles disciplines autour de cette notion d'agroécologie. Alors ça veut dire qu'au plan, plan pratique comme au plan théorique, passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture agroécologique, c'est pas simplement passer d'une production conventionnelle à une production bio. Bon, ça suppose, il faut se plonger dans l'histoire agronomique d'une région, dans son histoire, dans ses relations sociales, dans tout ce qui l'entoure, dans les pouvoirs qui agissent dessus, les pouvoirs de marché, les pouvoirs politiques, les politiques publiques. Vous voyez, c'est une vision tout à fait globale. Mais surtout, l'agroécologie, elle procède aussi à ce que je pourrais appeler une rupture épistémologique, dans le sens où elle va reconnaître des savoirs et des savoir-faire qui, traditionnellement, ont été complètement méprisés par la recherche, à savoir les savoirs locaux, les savoirs des paysans, les savoirs des peuples indigènes. Et ça, cette reconnaissance-là, c'est une véritable rupture. C'est une véritable rupture par rapport à des habitudes qui consistent à séparer les deux, à considérer qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, qu'il y en a une supérieure à l'autre, etc. Même si elle a fait la preuve, en fait, des dégâts, hein, je l'ai dit tout à l'heure, des dégâts qu'elle avait produits. Et d'autre part, l'articulation avec les mouvements paysans est une donnée aussi très importante, et elle est d'autant plus importante que, comme un peu l'a expliqué Guy, ces mouvements paysans sont en train de s'organiser pour réfléchir sur leur propre recherche, pour retransmettre leur propre recherche. Et donc il y a des écoles, effectivement, de formation à l'agroécologie qui sont en train de se créer un peu partout, en Amérique latine beaucoup, mais également en Asie, mais également en Afrique. Et donc il y a plus simplement un paysan dans un coin qui est en train, avec lequel on va expérimenter, mais il y a une véritable réflexion collective qui est menée autour de la recherche et qui est une recherche alternative, qui est une pratique alternative. Et donc ça, je crois que c'est une donnée complètement nouvelle, complètement importante, que la recherche va avoir beaucoup de mal à intégrer, et qui a beaucoup de mal à intégrer d'ailleurs. Alors, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer, si vous voulez, dans les milieux de la recherche en agroécologie, c'est que pour l'instant, c'est un catalogue de recettes techniques. Voilà, c'est ce qu'on enseigne actuellement en agroécologie. Ce qui veut dire que derrière ça, il va falloir repenser la formation des chercheurs d'une manière différente. Bon, moi, je peux donner l'exemple que je connais bien, qui est la formation qui est donnée en Espagne à l'Institut de sociologie et d'études paysannes, qui est une formation totalement pluridisciplinaire, où viennent des écologues, où viennent des historiens, oui, j'ai presque fini, une formation qui n'existe absolument pas ailleurs, d'ailleurs, en tout cas pas en Europe, donc vous voyez, et qui est très compliquée à monter, hein, qui a été très compliquée à monter, et qui évolue sans arrêt, qui est extrêmement aussi vivante qu'est la nature. C'est ça qui est extraordinaire, parce qu'en fait, ces chercheurs, ils évoluent eux-mêmes, et donc tous les ans, quand ils se retrouvent avec des étudiants, eh bien, à chaque fois, il y a une pensée qui évolue et qui se reconstitue et qui se recrée, etc. Donc ça, c'est intéressant. Mais je peux aussi donner un autre exemple dans les pays du Sud, au Brésil, par exemple. Les techniciens agricoles qui travaillent avec... parce que, enfin, vous ne savez peut-être pas, mais il y a deux ministères de l'agriculture au Brésil. Donc celui qui fait de l'agroécologie, qui s'appelle développement agricole, il a formé des techniciens agricoles spécialement pour reconnaître le fait qu'il y ait des savoirs paysans et qu'il faut travailler différemment avec les paysans que ne travaillent les techniciens qui font la vulgarisation agricole traditionnelle. Donc vous voyez, il y a tout un travail de recherche derrière. Et puis je voudrais terminer sur une condition absolument incontournable, enfin de mon point de vue, et pas uniquement du mien d'ailleurs, en ce qui concerne la recherche en agroécologie, c'est l'engagement. Un chercheur doit être engagé, et la société scientifique d'agroécologie la plus importante, qui est celle d'Amérique latine, qui s'appelle SOCLA, a dans sa charte un article qui spécifie que les savoirs scientifiques doivent être mis au service des mouvements paysans et des mouvements sociaux pour proposer, pour soutenir des alternatives à l'agriculture industrielle. Donc vous voyez qu'on est là dans un engagement très fort, un engagement politique, et qu'on est très très loin de ce qu'on peut avoir dans nos organismes de recherche. Bon, voilà, donc je termine simplement pour dire que le parcours est long et difficile. Et que pour développer des recherches, parce que l'agroécologie, maintenant qu'il est récupéré par les mouvements paysans, est un outil de transformation sociale, et qu'une recherche qui veut se mettre à la disposition de centralité donnée à la paysannerie, et une paysannerie diversifiée et nombreuse, au démantèlement de l'agriculture industrielle, à une relocalisation de la production et des échanges et un dialogue des savoirs. C'est un long chemin qui nous reste à tracer. Je vous remercie.
Marianne, pour Ecobâtir.
Moi je suis membre du réseau Ecobâtir. Le réseau Ecobâtir, c'est un lieu de production, de discernement collectif. C'est un réseau d'acteurs de l'éco-construction vivant, je dirais, pareil, évolutif, non stabilisé, on peut dire aussi, comme l'agroécologie. Et on partage les mêmes fondements, l'environnement et la santé, les sociétés humaines et la nature des échanges économiques, les cultures et les savoir-faire. La problématique du bâtiment confronté à l'enjeu écologique est très proche de celle de l'agriculture. Par exemple, vous avez les contraintes des normes qui nous empêchent de construire des alternatives en dehors des systèmes industriels. Pareil, quand on me disait, comme on disait tout à l'heure, d'être sous l'indépendance, les artisans se retrouvent sous l'indépendance de l'industrie actuellement pour la plupart. Mais aussi historiquement, le tournant industriel d'après-guerre, avec entre autres l'utilisation généralisée d'énergie pétrolière et des autres énergies fossiles, qui fait qu'actuellement, on se retrouve avec des maisons empoisonnées. Ce qui nous lie aussi à l'agriculture, c'est les coproduits du travail des paysans, qui ont façonné depuis des millénaires les arts de construire, et surtout d'être ensemble, et j'y reviendrai un petit peu après, mais je suis rapide quand même. Bon, ces matériaux, les pailles, la rafle, la laine, le cuir, le bois, les cailloux, la terre, les coques, sont tous des matériaux naturels premiers et locaux. Ils sont très peu transformés, ils sont sans rajout de produits synthétiques et traitements, et ils ont fait leur preuve de leur innocuité. Leur impact sur l'environnement et sur la santé est pas seulement moindre à l'usage, mais en plus tout le long de leur cycle de vie et leur fin de vie également. Enfin, avec l'utilisation de ces matériaux, on peut produire des bâtiments aussi performants que ceux en matériaux conventionnels, mais surtout des bâtiments très confortables par des caractéristiques de gestion d'hygrométrie, c'est la gestion de l'humidité. Et une autre notion qui est un peu nouvelle, l'effusivité, c'est le contact de la matière. Ce qu'on a aussi en commun, c'est les savoir-faire. La culture au sens culturel, qui signifie en fait un lien fort et vivant entre le passé, le présent et le futur, avec toujours ce sens de l'évolution, l'adaptation, l'intelligence alliée à l'intuition, avec utilisation de nos sens, ce qu'on appelle un peu la métisse aussi. Je reviens donc sur être ensemble, travailler ensemble. C'est un trait caractéristique de la construction écologique et de l'agriculture paysanne. Et là, plus précisément, là où l'industrie des matériaux met des machines consommatrices d'énergie et émettrices de gaz à effet de serre, l'éco-construction, elle, met des heures de travail. L'éco-construction et l'agroécologie met de l'intelligence, de l'énergie humaine, du travail manuel. Et c'est ce que nous, on a appelé l'intensité sociale, qui est un peu une nouvelle notion qu'on essaye de travailler actuellement au réseau. Et l'intensité sociale mesure l'efficacité énergétique des pratiques humaines. Plus l'indicateur en heures de travail est élevé, moins on utilise la machine, plus on favorise l'emploi. Donc, pour terminer, je dirais que les liens entre les acteurs d'éco-construction et les acteurs de l'agroécologie sont de plus en plus forts. Nous, le réseau Ecobâtir fait partie donc du collectif depuis le début, même encore avant. Et actuellement, il y a quand même les problèmes de l'étalement urbain sur les terres agricoles qui concernent les deux. Et pour être positif, une nouvelle solution qui est actuellement, qui est l'agriculture urbaine. Voilà. Merci.
Merci Marianne.
Voilà, même si on n'a pas pu écouter l'ensemble des passionnantes interventions qui ont lieu à cette conférence sur l'agroécologie paysanne, on va s'arrêter sur cette belle convergence de vues et d'alternatives que vient d'esquisser Marianne Carivé-Girard du réseau Ecobâtir. En effet donc, comme la définition de l'agroécologie portée par le collectif pour une agroécologie paysanne ne se résume pas à des techniques vertes, le projet de société qu'il porte ne concerne pas non plus seulement l'agriculture. Ainsi, si les membres du collectif sont tous en lutte contre l'industrialisation et la marchandisation du vivant, de l'humain et du social, la technicisation et l'écotechnicisation, ils n'appartiennent pas tous au monde agricole. Outre le réseau Ecobâtir, on trouve aussi par exemple Minga,
qui défend une économie équitable. Et à ce sujet, on vous invite à écouter une de nos précédentes émissions que vous retrouverez sur notre site internet zoomecologie.net, ainsi bien sûr que l'émission de ce soir. Bonne soirée à tous et à toutes.